France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, qu'on va expliquer notre goût pour l'histoire. En 2022, un sondage Harris Interactive indiquait que 93% des Françaises et des Français déclaraient s'intéresser à l'une des facettes de l'histoire. Histoire du monde, histoire de France, histoire régionale, histoire de l'Europe. Un goût qui se manifeste dans les musées, les expositions, les livres d'histoire, les émissions télé, les documentaires, les émissions de radio, les podcasts ou encore les vidéos de vulgarisation sur YouTube. C'est l'occasion de s'intéresser ce matin au métier d'historien et aux raisons profondes qui poussent à s'intéresser à une époque donnée, de quelle façon l'art, la culture, les médias leur ont donné envie de s'intéresser à une période historique, comment transmettent-ils leur savoir, comment vulgarisent-ils leurs recherches. Éléments de réponse avec nos invités, Michel Pastoureau, Charlie Danger, Xavier Mauduit et François Darocha. Et vous, racontez-nous votre goût pour l'histoire au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Alésia. Jules César attend la reddition du chef gaulois Vercingétorix qu'il vient de défaire.
429, atteint à son tour par la peste, Périclès va mourir. Et la Grèce va s'épuiser en guerre fratricide, stupide et sans fin.
L'époque, 14e siècle. Le lieu, la France. Le roi Philippe IV. Il est Philippe le Bel.
Maudit ! Vous serez tous maudits !
Bonsoir. Eh bien oui, nous allons parler ce soir de Garibaldi. Pourquoi Garibaldi ? Eh bien, on ne le connaît pas. Et pourtant, c'est un personnage fabuleux.
J'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Napoléon à Golfe-Juan, 1er mars 1815.
Medley Signé, Claire Destacan, et vous aurez peut-être reconnu le dessin animé Il était une fois l'homme, ou encore l'émission culte de France Inter 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet. Des dessins animés, des émissions qui ont donné le goût de l'histoire à des générations de Français. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire, spécialiste du 19e siècle, notamment du Second Empire, et vous venez de publier chez Armand Collin, Fou d'Histoire, un recueil richement illustré, issu de votre émission Le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h sur France Culture. Il était une fois l'homme, les mystérieuses cités d'or. Ce sont des dessins animés qui ont peut-être enflammé votre imagination et excité votre goût pour l'histoire.
Vous voyez comme j'ai les yeux qui brillent.
Oui.
Il était une fois l'homme, mais c'est une aventure d'enfance et les mystérieuses cités d'or tout autant. C'est vrai que moi je suis fasciné par ces vecteurs qui nous conduisent à l'histoire. Et c'est un plaisir l'histoire avant tout, on le ressent. Il y a de ça. Comprendre, c'est un plaisir. Et puis simplement, on nous raconte des histoires. C'est en cela, peut-être, qu'on est tous restés un petit peu gamins.
Et on va y revenir largement ce matin. Bonjour François Darocha.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre de recherche d'études d'histoire des sociétés. Vous êtes professeur au lycée Jean Moulin à Roubaix. Et vous avez publié Un peuple et son football aux éditions du Détour. Bonjour Charlie Danger.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste et vulgarisatrice historique et archéologique. Depuis 2014, vous animez la chaîne YouTube Les Revues du Monde, suivie par 1 million d'abonnés, c'est ça ?
Tout à fait.
Et impossible de faire une émission dans Grand Bien vous fasse consacrée à notre goût pour l'histoire et les historiens qui transmettent leur savoir. Sans vous, Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Régulièrement invité dans cette émission, vous êtes historien, spécialiste des animaux, des couleurs, des images et des emblèmes, ancien directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et vous avez publié de fabuleux ouvrages consacrés aux couleurs et aux animaux. Et vous publiez au Seuil, L'imaginaire est une réalité, un livre d'entretien avec Laurent Lemire. Et l'imaginaire, Michel Pastoureau, c'est l'un des points de départ de votre goût pour l'histoire. Vous avez 7 ou 8 ans quand vous découvrez dans un cinéma de la côte bretonne, au Val-André, Ivanhoé de Richard Thorpe avec George Sanders et Joan Fontaine, un film qui est sorti en 52, que vous voyez en 55. Et c'est un film adapté d'un roman de Walter Scott, sorti en 1819. Et ce film vous frappe à un tel point que vous le voyez 5 ou 6 fois.
Oui,
J'avais au cours 8... du même été.
Voilà, mais j'avais 8 ans, je faisais l'ouvreuse. C'était le cinéma paroissial et avec un camarade dont la grand-mère tenait le cinéma, on vendait les Esquimaux, donc on en mangeait beaucoup. Et j'ai vu 5 jours de suite, en effet, le film de Richard Thorpe. J'avais 8 ans et à partir de cette date... J'ai laissé tomber les cow-boys et les chevaliers m'ont passionné. Mon goût pour le Moyen-Âge date de cet été 1955.
Et d'ailleurs, votre premier livre destiné au grand public, publié en 1976, c'est La vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la Table Ronde.
Voilà, j'ai un goût immodéré pour la légende arthurienne. Je l'avais déjà quand j'étais étudiant. J'ai consacré mon premier livre, en effet, dans la collection d'Hachette, La vie quotidienne. Et j'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre, qui est un peu dépassé, bien sûr, aujourd'hui, qui est assez rapide. Mais il y a 2-3 ans, j'ai voulu écrire comment j'avais écrit ce livre en 1975-76. C'était pour moi l'occasion de faire un peu d'historiographie.
Est-ce que vous savez pourquoi ce film, Yvan Noé, vous frappe au point de vous passionner pour l'époque médiévale ?
D'une part, il est très fidèle au roman de Walter Scott. Les scénaristes ont peu inventé. Les costumiers, les décorateurs ont bien mis en scène une fin du XIIe siècle et pas un XVIe siècle, comme on le voit trop souvent dans les films sur le Moyen-Âge. Et puis surtout, le roman de Scott est publié à la fin de l'année 1819. Et tout ce qui fait que le Moyen-Âge est le Moyen-Âge, pour nous aujourd'hui, est déjà là dans le livre. Il y a le roi prisonnier, la fabuleuse rançon, le Templier effroyable, un père fâché avec son fils, le retour de croisade, un procès en sorcellerie, un tournoi, un siège de château fort, qui est sans doute le plus beau de toute l'histoire du cinéma. Bref, tout ce qui fait que le Moyen-Âge est le Moyen-Âge est déjà en place chez Scott, donc il y a plus de 2 siècles, et passe bien sûr dans le film.
Xavier Mauduit, vous citez Michel Pastoureau et son goût pour Yvan Noé en préambule de votre livre Fou d'Histoire. Vous rappelez hein, que les romans, les œuvres d'art, les films, les BD, les émissions de radio aiguisent notre appétit pour l'histoire, notre appétit d'histoire. Et j'ajouterai les jeux vidéo comme Assassin's Creed ou des chaînes YouTube de vulgarisation comme celle de Charlie Danger ou la chaîne Nota Bene.
Oui, c'est important de le rappeler tout ça parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment les gens en arrivent à l'histoire et c'est rarement en achetant le livre d'un universitaire quand on est adolescent qu'on entre dans l'histoire. Hein. Bien souvent c'est par Yvan Noé, Michel Pastoureau vient de le dire, par tout ce que vous venez de citer, Ali. C'est ça qui nous conduit pour ensuite vouloir en savoir plus et acheter le livre de l'universitaire. Et puis... C'est de la radio, Ali. Vous savez par cœur comment ça fonctionne. On crée des images avec la voix. Mais elles nous viennent d'où, ces images-là? Quand on parle du Moyen-Âge, les images qui nous viennent sont celles qui proviennent des films. Et toute cette construction par la littérature, parce que la littérature a ça de commun avec la radio, que nous avons l'image qui nous arrive en tête simplement avec des mots. Mais cette construction-là est drôlement importante et c'est pour ça d'ailleurs que pour certaines périodes historiques, c'est beaucoup plus difficile d'en parler à la radio. Si je dis Napoléon ou Louis XIV, les images s'imposent à nous. Si on commence à parler d'empereur byzantin, c'est déjà un peu plus difficile, s'il y a quelques mosaïques d'un seul coup qui apparaissent.
Michel Pastoureau, on le voit bien, l'imaginaire est fondamental dans la vocation d'historien. Expliquez-nous le titre de votre livre d'entretien, L'imaginaire est une réalité.
Oui, je veux dire par là que pour un historien, il faut aussi s'occuper de l'imaginaire d'une société. On ne peut pas limiter l'étude d'une société à la culture matérielle, aux institutions, aux structures de parenté, à la vie quotidienne. Il faut prendre en compte aussi les croyances, les superstitions, les peurs, les fantasmes, les systèmes de valeurs. Tout cela peut et doit s'étudier. D'ailleurs, souvent, c'est plus documenté que le concret de la réalité quotidienne. Le cours ordinaire des choses, c'est ce qui échappe le plus au travail de l'historien, y compris pour les périodes les plus récentes. Hein. Qui parle de notre cours ordinaire des choses aujourd'hui, dans la presse ou chez les historiens. Hein. Or, ça fait partie de 90% de notre existence et on en parle extrêmement peu.
Je vous cite Michel Pastoureau, l'historien sait bien que le passé n'est pas seulement ce qui a été, c'est aussi ce que la mémoire en a fait. Quant à l'imaginaire, il ne s'oppose nullement à la réalité. Une réalité différente, fertile, mélancolique, complice de tous nos souvenirs.
Oui, bien sûr, c'est... prégnant dans tous les domaines que l'on étudie. Cette phrase, elle est de Marc Bloch, elle n'est pas de moi. Hein. L'histoire, ce n'est pas seulement ce qui a été, c'est aussi ce que l'on en a fait. Ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte l'historiographie, replacer chaque discours d'historien dans son époque et pas dans la nôtre, et surtout ne pas juger le passé à l'aune des valeurs du présent.
Votre regard, François Darrocha Carnero?
Mon regard est celui de la communauté des historiens. Je rejoins tout à fait Michel Pastoureau. On ne peut pas en effet juger à l'aune de nos propres convictions d'aujourd'hui le passé. On ne peut pas le tordre non plus pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Ça semble important à une période où on a tendance à tenir des discours sur l'histoire, à utiliser, manipuler l'histoire à des fins idéologiques, pour ne pas dire politique. Donc ça, c'est évident qu'on doit faire très attention à cela. Maintenant, pour ce qui est de l'imaginaire, c'est certainement une façon de vivre un imaginaire que d'aller vers l'histoire.
Et vous nous direz tout à l'heure ce qui vous a poussé vers ce métier d'historien, ainsi que Charlie Danger, qui est une vulgarisatrice très suivie sur YouTube. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo et de Légende. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parents?
Eh bien, puisque le métier de parent, c'est aussi de transmettre l'histoire à ses enfants, on va se demander qu'est-ce qu'une bonne histoire pour notre progéniture.
Une thèse sur quoi?
Ali Rebéi.
Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru.
Grand bien vous fasse.
Au lac de
Paladru.
Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Sur France Inter.
Et vous avez peut-être reconnu un extrait dont connaît la chanson. Et ce matin, comment expliquer notre goût pour l'histoire? C'est l'occasion de s'intéresser à ce qui a déclenché la passion de l'histoire chez nos invités. La vulgarisatrice historique Charlie Danger et les historiens Michel Pastoureau, Xavier Mauduit et François Darrocha. Charlie Danger, vous créez donc votre chaîne YouTube de vulgarisation historique et archéologique à l'âge de 18 ans. Ça s'appelle La Revue des Mondes. Et c'est un voyage à bord du SS Sudan qui va déclencher votre passion pour l'histoire. Alors c'est un bateau à vapeur sur lequel embarquaient diplomates, archéologues et aristocrates au début du XXe siècle. Et c'est un bateau qui inspira Agatha Christie pour son célèbre roman « Mort sur le Nil » publié en 1937. C'est l'un des points de départ de votre passion pour l'histoire.
Oh, pas que ça. Moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille de passionnés d'histoire avec mon papa qui était également antiquaire. Et ensuite j'ai voulu entreprendre des études en archéologie, en histoire de l'art. Et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque du côté de ma génération, à savoir les nouvelles générations ne s'intéressaient pas à l'histoire et aux sciences de la même manière que les générations précédentes. Et notamment par le fait qu'on n'utilisait pas les mêmes médiums, on regardait beaucoup moins la télévision, on consommait un petit peu moins de livres papier. Et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait parler de ce sujet que je trouve absolument passionnant, mais avec des codes un petit peu différents, en dépoussiérant tout ça, en évitant le côté bibliothèque Alain Decaux, même si j'adore Alain Decaux. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, à la base, quand j'étais en études. Et puis finalement, j'en ai fait mon métier et je suis devenue réalisatrice documentaire.
Qu'est-ce qui enflamme votre imagination à l'époque, quand vous montez à bord du SS Sudan? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a aussi les lectures. Hein. Il y a Jules Verne, la lecture de Jules Verne, de Tintin aussi.
Oui, tout à fait. Moi, j'étais une grande fan d'Agatha Christie. Et depuis que je suis petite, j'avais qu'un seul rêve, c'était de visiter le SS Sudan. J'en avais fait une obsession. J'avais des posters, des plans du SS Sudan accrochés au-dessus de mon lit, à côté d'un poster de High School Musical, donc
on était vraiment... Le grand écart.
C'est ça. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à avoir une petite passion qui est devenue une passion dévorante pour l'Égypte ancienne. Et donc le bateau SS Sudan, c'était vraiment un rêve et j'ai eu la chance de pouvoir y aller, parce que ça coûte très très cher, seulement il y a quelques années, et je l'ai partagé avec ma sœur ce voyage et c'était absolument incroyable.
Et Jules Verne?
Jules Verne, pareil, dans les lectures qui fascinent l'imaginaire, je pense que Jules Verne a beaucoup contribué à ma passion. Mais pas que, hein. Je pense que sur YouTube aussi, on retrouve beaucoup d'émissions et de vidéastes qui m'ont beaucoup inspiré.
Tiens, écoutons un extrait de votre dernière vidéo sur votre chaîne YouTube.
Pour la majorité des gens, l'Antiquité, c'est, grosso modo, les Grecs et les Romains, avec leurs colonnes, leurs toges et les casques à plumes, nanana. Versus les Égyptiens, avec les perruques, les yeux ourlés de couleur noire, etc., les momies, tout ça. Ça, c'est le cliché qu'on a de l'Antiquité. Bon, alors là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes derrière leur écran qui se disent « Ah mais non, moi j'ai directement pensé à la Mésopotamie !» Chut, arrêtez de faire vos intéressants. Je sais qu'ici, on est entre gens qui aiment l'histoire. Calmez-vous. Je rigole, évidemment.
Un million d'abonnés suivent votre chaîne Les Revues du Monde. Comment vous construisez vos vidéos? Comment vous travaillez?
Alors aujourd'hui, j'ai une équipe d'à peu près 10 personnes avec moi sur les épisodes. On est alors entre les monteurs, les recherchistes et les auteurs. Et on travaille
systématiquement. Il y a des doctorants, par exemple, des totalement, chercheurs en histoire qui collaborent et qui vérifient, je crois, vos scripts aussi. Hein.
Bien sûr. Alors, moi, c'est vraiment un des points centraux de mon travail. C'est-à-dire que j'essaye de parler à un public, certes plus jeune, mais tout en gardant la rigueur académique. C'est-à-dire que mes scripts sont systématiquement relus par des historiens, des archéologues et puis même d'autres membres de la recherche, hein, biologistes, anthropologues,
dès que c'est nécessaire. Tellement perfectionniste, Charlie Danger, que vous avez éliminé certaines vidéos qui ne vous satisfaisaient pas.
Tout à fait. Ouais. Il y a certaines vidéos au début de ma chaîne, notamment quand j'avais 18 ans, dont j'ai regardé ça a posteriori en me disant, bon, là maintenant ça n'a pas très bien vieilli et certaines informations ne sont pas totalement fausses, mais manque de précision et donc j'ai préféré les retirer.
Vous savez ce que recherchent les abonnés qui vous suivent? Quels sont leurs retours?
Alors, les gens viennent sur YouTube d'abord pour se divertir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que ça va être compliqué de convaincre quelqu'un qui vient après une longue journée de travail pour se divertir de regarder un documentaire de une heure sur l'histoire de l'Égypte ancienne ou que sais-je. Donc moi, mon objectif primaire, c'est d'appeler toutes ces personnes qui ne vont pas forcément s'intéresser de base à des thématiques scientifiques à regarder pendant au moins 40 minutes une vidéo qui parle d'un sujet qui finalement peut-être leur paraît assez anodin ou anecdotique à la base, et finalement ils vont se prendre pour passion dans ce sujet-là et regarder comme ça 40 minutes de documentaire.
Votre regard, François Darrocha-Carnero, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et vous êtes vice-président de l'association des professeurs d'histoire. Vous
l'étiez. Je ne le suis plus.
Ah bah vous l'avez été en tout cas. Et donc vous étiez vice-présidente de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Votre regard sur le travail de Charlie Danger?
Peut-être qu'il ne le connaît pas.
La démarche est intéressante. Je connais un peu aussi ce que fait Nota Bene, ce que fait Benjamin Brio. Ça permet d'utiliser des médias qui sont peut-être plus parlants pour certaines personnes, et en particulier pour une génération à laquelle on s'adresse, les plus jeunes. Évidemment que c'est une démarche qui ne peut qu'être vue de façon favorable.
Xavier Mauduit ?
C'est formidable, merci. Mais merci mille fois, parce que toutes ces vidéos-là...
Parce que ce sont les futurs auditeurs du cours de l'histoire.
Exactement, moi je le vis ainsi, et c'est notre intérêt à toutes et tous, cette transmission. Et on a cité Nota Bene, il y a Yann Toucourt, il y a Manon Bril, et il y a vous, Charlie Danger. C'est formidable parce que, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, c'est du divertissement. Et c'est Marc Bloch qui le dit aussi. Il dit, ça me divertit, l'histoire. Puis après, l'histoire, ça a deux sens. L'histoire, c'est tout ce qui s'est passé avant. Ça, c'est l'histoire, j'aime bien l'histoire. Puis il y a l'histoire, c'est la discipline historique, scientifique, avec des méthodes. Et de temps en temps, on confond un peu les deux, parce que les deux peuvent se croiser. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me raconte des choses que je comprenne, et dans certains formats, que je passe un bon moment. Et c'est tout à fait cette proposition que vous faites. J'adore ça.
Et on reviendra sur la question du plaisir avec vous, Michel Pastoureau. Alors, vous, François Darrocha, la passion pour l'histoire est familiale. Vos parents vous font visiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de châteaux.
Hélas.
Quand vous étiez petit.
Oui, non. Il y a eu cette dimension familiale qui... comme pour Charlie, a pu jouer à un moment ou un autre. En tout cas, à défaut de m'intéresser aux châteaux, de me donner le goût des châteaux, que je n'ai toujours pas,
ça... Si, tout de même, à 7-8 ans, au même âge que Michel Pastoureau, quand il découvre Ivanhoé, ce qui vous fait rêver, c'est une ville médiévale Playmobil, qui excite votre imaginaire historique.
Oui, mais voilà, c'est l'idée que le présent ne se suffit pas à lui-même, qu'il y a d'autres dimensions du temps. Et ça, c'est une démarche qui est essentielle chez l'historien. C'est un élément qui est essentiel dans le goût de l'histoire, je pense. Donc c'est un terreau qui est complexe. Évidemment, il y a la ville Playmobil. La ville médiévale Playmobil.
Est-ce que vous êtes devenu médiéviste?
Alors, j'ai fait des études en histoire médiévale et puis je me suis réorienté ensuite. Mais oui, j'avais une maîtrise et un DEA d'histoire médiévale.
Donc les Playmobil ont joué un rôle à leur manière.
Non. l'histoire est ce que les historiens en ont fait. Donc, quand on réfléchit sur ses propres goûts, sa propre démarche de l'historien, ses propres origines du goût, c'est ça qui m'est venu en tête. Et je pense que ça a joué, mais il y a d'autres choses. Il y a en particulier mes professeurs du secondaire.
On va y revenir. Xavier Mauduit, on l'a dit, l'art, la culture, les médias nous donnent envie de découvrir certaines périodes historiques. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie à vous passionner pour le 19e siècle et en particulier pour le Second Empire? Je rappelle que votre thèse de doctorat s'intitulait « Le ministère du faste, la maison du président de la République et la maison de l'empereur 1848-1870 ». Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette période historique
Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là?
Pourquoi ce goût du 19e siècle et du Second Empire?
Non mais vous savez, Ali, moi souvent... On m'a posé la question, et je me la suis posée, pourquoi l'histoire? Je suis incapable de répondre enfant. Ce que je sais, c'est que l'émotion face à la trace du passé, elle a toujours été là. Moi, les châteaux, réellement, ça émotionne. Non, mais c'est vrai, quand on se balade et qu'on voit une vieille maison, quelque chose d'ancien, et je vous parle même pas des vieux papiers, des vieilles photographies, il y a une émotion. Celle-là, je l'ai toujours eue, et j'ai toujours dit, vous savez, sur les petites fiches qu'on remplit en début d'année à l'école, j'ai toujours mis... prof d'histoire, enseignant. Au début, je m'étais archéologue, parce qu'on a tous voulu être un peu archéologue. Il y a toujours eu ça. Et après, c'est vrai que dans notre démarche, quand on décide de s'engager dans des études d'histoire, il y a une vraie réflexion. Et moi, ça a été le 19e siècle.
Pourquoi ?
Je suis fasciné. Combien ces gens du 19e siècle nous ressemblent avec les mêmes préoccupations. Et en fait, quand on creuse juste un tout petit peu, nous vivons encore dans ce siècle-là. C'est juste des questions de temporalité. On pourrait même parler de génération. Ça va très très vite, les choses en réalité. Et quand on regarde autour de nous, à Paris, mais pas seulement à Paris, nous sommes dans un monde qui est très marqué par le 19e siècle. Et puis même dans notre façon d'être. Hein. Le repas du dimanche, etc. C'est très 19e siècle. Cette compréhension d'aujourd'hui par le passé, ça c'est la clé. Mais alors, la découverte d'autres périodes, ça c'est un plaisir constant aussi, même quand elles sont obscures.
Alors Michel Pastoureau, vous insistiez auprès de vos doctorants sur les aspects ludiques de la recherche. C'est vrai, mieux vaut choisir un sujet de thèse qui va vous procurer du plaisir. Parce que Xavier Mauduit, quand il se tape une thèse sur le ministère du faste, la maison du président de la République et la maison de l'empereur...
C'est bling bling, hein, ça va.
Il vaut mieux prendre du plaisir à s'atteler à cette thèse de doctorat. Vous le dites à vos doctorants à l'époque.
Je l'ai toujours dit pendant presque 50 ans et je n'ai pas toujours été écouté. Hein. Il y a l'idée que la recherche, la thèse, c'est sérieux et le plaisir, ce n'est pas sérieux. Et moi, j'appartiens à une génération où c'était pas dans l'air du temps, surtout avec mes propres sujets. C'était après mai 68 et c'était l'idée qu'un jeune chercheur, un jeune historien, il avait des devoirs envers la société, envers la communauté savante. Et alors Pastoureau, avec ses couleurs et ses animaux, il avait l'air de trop se faire plaisir. C'était immoral par rapport à mes camarades qui faisaient des courbes sur le prix du pain à Paris au XVIIIe siècle, des choses de ce genre qui étaient dans l'air du temps. Ça a un peu changé, mais j'ai eu toujours du mal à faire accepter à mes doctorants qu'ils devaient d'abord se faire plaisir. C'est le moteur de la recherche. Aujourd'hui, tout peut être objet d'histoire, donc autant en profiter. Le rôle de l'enseignant, c'est de dire, attention, là, il n'y a pas de documents, là il y a un tel qui travaille sur le même sujet, etc. Mais on peut quand même avoir une palette de sujets extrêmement large.
Xavier Mauduit ?
Cette émotion de l'archive, enfin pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Arlette Farge, Le goût de l'archive, on le ressent. Et il y a beaucoup de gens qui font de la généalogie aujourd'hui parce que les archives sont numérisées et en ligne. Cette émotion-là, on la ressent aussi dans la découverte. Et c'est vrai, Michel Pastoureau, vous le disiez, quand on fait des études statistiques, c'est dur, moi, sur ma maison de l'Empereur, hein, des statistiques ou des parfoisons, mais la découverte du document... ou plus beau encore parfois, de la trace très humaine, de l'encrier renversé, de la petite chose qui reste. Et là, on est en contact direct avec ces gens du passé. Donc d'un seul coup, le tableau statistique, le tableau Excel, est en confrontation avec cette trace très humaine. Ça, on aime beaucoup.
François Darrocha, vous avez choisi un sujet de thèse, de doctorat, qui vous a passionné. Hein. C'est l'équipe de foot de France.
Ouais, quand j'ai... eu l'audace de me lancer dans une thèse. Il y a eu quand même cette volonté de servir la communauté, d'être utile. Mais oui, il y avait évidemment le plaisir de s'intéresser au football, là où on n'est pas si nombreux, même si l'histoire du football a atteint l'âge de sa maturité maintenant. Mais
vous êtes devenu d'ailleurs une référence sur l'histoire de l'équipe de foot. C'est vous qu'on vient chercher. Hein.
Que France Inter et France Culture peuvent venir chercher parfois, oui. Mais voilà, c'est, le plaisir est indispensable en histoire.
Et à propos de plaisir, vous citiez l'historien Marc Bloch, Xavier Meduit, je le cite, hein, « Personnellement, d'aussi loin que je me souvienne, elle m'a beaucoup diverti, l'histoire, comme tous les historiens, je pense, sans quoi, pour quelle raison aurait-il choisi ce métier ?»
Ouais, c'est vraiment cela. Hein. Et puis vous savez, Ali, vous jouez un jeu très très dangereux depuis tout à l'heure, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous parlez de nos sujets de thèse. Vous savez qu'on peut vous faire 3 heures minimum sur chaque sujet. Non mais il y a de ça aussi, c'est qu'on est complètement baigné dedans.
Charlie Danger, on sent aussi ce plaisir de transmettre à vos youtubeurs.
Ah, complètement. Nous, à la base, ça vient d'une passion et au-delà du plaisir, je pense que c'est vraiment la passion qui unit aussi la communauté, que ce soit les chercheurs ou alors les vulgarisateurs, puisque moi, mon rôle, à la base, c'est vraiment ça. Je fais de la vulgarisation. J'ai pas pour ambition de donner un cours professoral de 2 heures pour objectif que les personne parte de ma vidéo en ayant tout su sur un sujet. C'est pas du tout ça l'objectif. Mon seul objectif, c'est de servir de porte d'entrée, de fenêtre pour des personnes qui peut-être ne s'intéressent pas encore à l'histoire et peut-être qu'après ils vont regarder les sources que j'ai mis en description et s'intéresser davantage aux travaux des chercheurs.
Michel Pastoureau, vous l'écrivez hein, dans votre livre L'imaginaire est une réalité, vous êtes gourmand de tout, gourmand de connaissances, de découvertes, de données chiffrées, de chocolat aussi. Vous dites même que vous êtes une sorte, alors ça j'adore la formule, une sorte de diabétique du savoir, un diabétique à la fois joyeux et mélancolique. Pourquoi mélancolique ?
Parce que la mélancolie fait partie de la recherche et c'est même une des choses les plus agréables dans le monde contemporain que la mélancolie. Dans les sociétés anciennes, c'était une maladie, la mélancolie, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et puis ça s'est revalorisé avec l'époque romantique et tout ce qui est de l'ordre du mélancolique, moi, me touche énormément. Je suis comme ça et j'introduis de la mélancolie dans l'écriture, dans la recherche, dans les sujets de thèse que je donne à mes étudiants. Oui, c'est indispensable à toute recherche. Faire des pas de côté, rêver, rêvasser, s'asseoir sur un banc, penser à des sociétés du passé ou des événements ponctuels, tout ça fait plaisir et rend un peu nostalgique.
Racontez-nous la place de la rêverie dans la recherche historique, scientifique.
Pour moi, elle est indispensable. J'ai essayé de faire partager ce goût à mes étudiants pendant très longtemps. Je n'y suis pas toujours arrivé. On ne réfléchit pas assez. Et je crois qu'on réfléchit de moins en moins, pose probablement des moyens d'information d'aujourd'hui. Mais autrefois, moi, j'appartiens à une génération où il n'y avait pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de photocopieuse, etc. Donc, on pensait davantage avant de se lancer dans une recherche. J'ai toujours invité mes docteurs à bien réfléchir avant de se lancer dans des enquêtes. Mais beaucoup ont pensé que c'était une perte de temps et qu'il fallait se lancer tout de suite dans l'étude de tel ou tel dossier. Alors, évidemment, la façon de travailler n'est pas du tout la même. Moi, dans ma façon de travailler, je réfléchis énormément. Mon lieu favori pour ce faire, c'est le jardin du Luxembourg, parce que je suis un enfant du jardin du Luxembourg. Je m'assieds toujours au même endroit, sur un banc. Même s'il pleut, j'aime beaucoup la pluie. Je réfléchis très bien sous la pluie.
Et vous écrivez d'ailleurs à la fin de votre livre, à propos de pluie, regarder et entendre tomber la pluie est peut-être ce qui m'émeut le plus dans l'existence.
Oui, ça n'est pas une posture, c'est vrai. Depuis que je suis petit garçon, j'adore regarder et écouter tomber la pluie.
À propos du métier d'historien, vous dites que sans curiosité multiple, sans esprit largement ouvert, il n'y a ni recherche ni découverte.
Bien sûr, oui, la vraie découverte se fait toujours au carrefour des disciplines, aussi bien dans les sciences humaines que dans les sciences dures. Donc mettre des barrières entre les disciplines, c'est absurde. Malheureusement, nos autorités de tutelle ne comprennent pas toujours cela. Et de moins en moins, chaque fois que les budgets se resserrent. Mais penser largement, se faire plaisir en pensant. Hein. Penser, c'est un des plaisirs de la vie. Réfléchir aussi. Et c'est comme cela que l'on peut s'avancer s'aventurer sur des terrains qu'on connaît un peu moins, faire des comparaisons, revenir en arrière, s'apercevoir qu'on s'est trompé, ça aussi, ça fait partie de la recherche, bien sûr. Dire aussi tant pis, parce qu'on aurait dû voir ceci, puis on ne peut pas y aller, ou dans mon cas, il faut prendre l'avion, j'ai trop peur de l'avion, je n'y vais pas. Tant pis, il y a énormément de tant pis dans la recherche, ça en fait partie pleinement.
François Darrocha.
Oui, je rejoins là encore tout à fait Michel Passot. Je me souviens dans ma thèse, j'avais dû réfléchir sur la structuration historique du match de football, historiciser le temps du match, et j'ai été bloqué pendant plusieurs mois. Ce qui m'a débloqué, c'est l'observation d'un tableau au musée du temps de Besançon, une nature morte, un enfant en train de faire des bulles de savon. Ça n'a rien du tout à voir avec le football, mais c'est ça qui m'a débloqué. Ce qui me nourrit comme historien dans ma réflexion, ce sont des ouvrages d'histoire moderne, je pense à Jérémy Foa, avec Tous ceux qui tombent, ce sont les travaux de Philippe Artière, c'est les travaux de tous les autres collègues qui sont passés avant nous et qui nous permettent de penser en histoire, mais également dans d'autres disciplines. Hein. Les sciences sociales, elles sont très riches, très variées, et l'anthropologie, la sociologie ou la géographie ont beaucoup à nous dire. Hein.
Sarah nous écrit « Le goût de l'histoire ne viendrait-il pas également des profs d'histoire ?» Vous, François Darrocha, c'est votre prof de collège, Mireille Lemétayer, que vous avez eu 4 ans de suite, et votre prof d'histoire de terminale, Madame Albertini, qui vous ont marqué et ont confirmer votre vocation d'historien. D'ailleurs, à 10-11 ans, vous rêviez de devenir prof d'histoire.
Comme le disait Xavier Mauduit, c'est ce que je mettais sur la petite note de début d'année. Professeur d'histoire, et je réalise toujours mon rêve d'enfant. Oui, il y a eu Mireille.
Expliquez-nous le rôle de ces professeurs.
Alors, Mireille Lemétayer et Jeanne Albertini ont certainement structuré un goût qui était jusqu'alors enfantin, le goût des histoires, qui devient un goût plus disciplinaire, même si ensuite l'université a beaucoup œuvré pour cela. Mais quelque chose peut-être de plus sérieux que la dorure des châteaux. Donc on pouvait aller voir d'autres histoires que celles des princes et des princesses. Je pense que ça joue un grand rôle. Je plains beaucoup, en particulier Mireille Lemétayer qui m'a subi 4 ans. Donc au bout de 4 ans, c'est pas évident d'avoir toujours les mêmes élèves. Mais moi, j'en ai tiré un grand profit. Et Jeanne Albertini, par ailleurs, j'ai eu la chance de l'avoir l'année où elle vivait quelque chose de difficile, de dramatique, puisque son fils était emprisonné par le régime de l'apartheid. Était coopérant français emprisonné en Afrique du Sud.
Les profs ont joué un rôle important chez vous, Xavier Mauduit.
Oui, mais vraiment, c'est là aussi cette main tendue vers la discipline
historique. Vous avez été prof également.
Hein. Oui, moi j'ai longtemps enseigné en lycée, et c'est vrai que ça reste un des plus beaux souvenirs professionnels, parce que c'est l'échange, et je ne sais pas si on connaît quelque chose de plus fort que de voir un visage un peu dubitatif, qui d'un seul coup comprend quelque chose. Ce moment où on est là en train d'expliquer, on voit la lumière là dans les yeux. Ça y est, j'ai compris. Ça, moi, ça reste un souvenir absolument magique de ce métier d'enseignement. Et on dira jamais assez combien on a un corps enseignant, mais extrêmement formé en France. Des gens, quand on voit la qualité et la difficulté des concours, hein, que ce soit le CAPES ou l'agrégation, on se dit tant mieux, parce que ça, c'est aussi une force de pouvoir donner un imaginaire. C'est une chose, mais surtout les outils d'analyse, les outils critiques aux futurs citoyens et futures citoyennes.
Xavier Mauduit dit, ça y est, j'ai compris. Vous, Michel Pastoureau, ce qui frappe, notamment dans vos livres, qui ont des accents pédagogiques, c'est la clarté. Vous recherchez la clarté.
Absolument, oui. J'ai trop souffert quand j'étais collégien puis lycéen de certains professeurs confus. Et donc, je me suis juré que si moi, un jour, j'étais enseignant, j'essayerais d'être le plus clair possible. Et donc, ne jamais prononcer une phrase que soi-même, on ne comprend pas. malheureusement, ça n'est pas si répandu que cela. Je pense que c'est pareil, d'ailleurs, à la radio. Donc, priorité à la clarté. Ça me vaut d'être, c'est un peu humiliant, mais en même temps réjouissant, d'être une des vedettes du brevet des collèges. Et non pas en histoire, mais en français, parce que j'écris clairement. Je parle de couleurs et d'animaux, donc c'est sympathique. Allez hop, brevet des collèges.
Ne sous-estimons pas quand même la profondeur de vos livres consacrés aux couleurs ou aux bestiaires. Allez, il est 10h43, l'heure de retrouver Ma vie de parent de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants,
après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors, mon cher Julien Bisson, est-ce que la passion de l'histoire a atteint votre fils ?
Ah oui, oui, oui. Il a toujours aimé l'histoire. Enfin, pas n'importe quelle histoire. C'est le genre de petit gars qui va vous demander quel est votre conflit préféré entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou qui est le plus fort entre Gengis Khan et Jules César. Bon, après, je n'en veux pas. Hein. Lorsqu'il était plus petit, il était comme vous, François Darrocha. Il adorait jouer au Playmobil, notamment avec toute leur collection historique. Vous savez, les Vikings, les Égyptiens, les cow-boys. Mais à l'intérieur, ce qui le passionnait le plus, c'était les collections d'épées. De halbards, de canons, de boucliers. À ça, il en a rejoué des guerres. Même des guerres que l'histoire n'a jamais connues. Les Perses contre les conquistadors, les Gaulois contre les Mayas, les GI américains contre les légionnaires romains. Et côté lecture, c'était pareil. Raconte-moi l'histoire de la guerre de 7 ans, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans. C'est bien simple, s'il avait pu avoir un poster de Duguay-Clin dans sa chambre, il l'aura accroché au-dessus de son lit.
Et c'est si grave que ça ?
Ben, je ne sais pas si c'est très grave, mais ça m'a quand même pas mal interrogé, cette envie de se raconter des récits guerriers. Et il se trouve que la grande autrice de science-fiction américaine, Ursula Le Guin, en parle dans un texte formidable qui s'appelle « La théorie de la fiction panier ». Elle explique qu'à la préhistoire, nos ancêtres qui n'avaient pas de talent particulier pour fabriquer des objets ou cuire des aliments s'étaient mis en tête d'aller chasser le mammouth. Et que par rapport aux autres hommes et femmes des cavernes, ils revenaient parfois avec un peu de viande, mais surtout avec quelque chose que les artisans et les cueilleurs de fruits n'avaient pas, une bonne histoire à raconter au coin du feu. Une histoire avec des héros, de la violence et du suspense. Une histoire pleine de coups portés, de choses enfoncées, écrit-elle. Bref, une histoire qui tue. Et Ursula Le Guin d'affirmer que nous sommes toujours aujourd'hui les dépositaires de cette tradition, que nous sommes toujours au coin du feu, à écouter des histoires de héros qui partent tuer et se faire tuer. Et que tant que nous ne racontons pas l'autre histoire, l'histoire de celles et de ceux qui ne partent pas au combat, mais qui restent, qui soignent, qui nourrissent, qui inventent, qui transmettent, alors notre imaginaire restera celui de la guerre. Et ce texte, quand je l'ai découvert, m'a profondément marqué en tant que citoyen, d'abord vis-à-vis des imaginaires qui continuent de nous habiter, mais aussi en tant que parent. Quelle histoire je raconte à mon fils le soir ? Est-ce que je lui apprends à admirer les guerriers, les héros, les vainqueurs, les Alexandres et les Napoléons ? Est-ce que je l'élève dans l'histoire des conquêtes, des batailles, Marignan 1515, Austerlitz 1805 ? Ou est-ce que j'essaie de le convaincre qu'il y a d'autres bonnes histoires à écouter et qu'on peut lire l'histoire du monde différemment.
Et c'est évidemment possible.
Et oui, ça l'est, bien sûr. Regardez ce que propose notre ami Laure Grand-Mauzançon avec ses Odyssées. Mais même avant cela, on a proposé d'autres façons de raconter l'histoire aux enfants. Je me souviens que j'avais profité du confinement, claquemuré dans notre appartement, pour montrer à mon fils l'intégrale d'une série qui avait bercé mon enfance. Vous avez sans doute reconnu peut-être les premières notes de la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, mais surtout, en tout cas pour moi, celle du générique d'Il était une fois l'homme qu'on a évoqué en début d'émission. Générique qui d'ailleurs m'angoissait beaucoup quand j'étais petit parce que, si vous vous souvenez, il retraçait en accéléré toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce que les héros se réfugient dans une fusée qui décolle de la Terre avant qu'elle n'explose. Visiblement, en 1978, on n'était pas beaucoup plus optimiste quant à l'avenir de la planète qu'aujourd'hui. Mais comme Xavier Mauduit, j'adorais cette série à l'époque, comme plus tard ses déclinaisons, Il était une fois les Amériques, les découvreurs, les inventeurs. Et en la revoyant avec mon fils, j'ai compris pourquoi. Parce qu'au fond, c'était pas juste l'histoire avec un grand H qu'on nous racontait. C'était une manière de la raconter à hauteur d'enfant. Pas seulement les rois et les batailles, mais aussi les artisans, les paysans, les gens normaux, hommes et femmes, soumis au délire des conquérants. Et que tout ça faisait mieux que de l'histoire, ça faisait de bonnes histoires. Donc si vous avez des gosses en bas âge, ou même un peu plus grand d'ailleurs, montrez-leur « Il était une fois l'homme ». La série, c'est vrai, a presque 50 ans, mais comme vous, mon cher Ali, elle n'a quasiment pas pris une ride.
C'est vrai que c'était assez génial, moi je regardais ça, c'était juste avant le journal de 20h sur FR3, ça durait 5 minutes, après il y avait une intégrale, et rendons hommage au créateur, Albert Barillet, « Il était une fois l'homme », parce que ce qui était bien dans « Il était une fois l'homme », c'est que ça racontait aussi le cours ordinaire des choses qui vous est cher, hein, Michel Pastoureau.
Oui, j'aimerais qu'on en parle davantage dans les livres d'histoire, dans la presse, dans les médias, parce que ça concerne tout le monde, et c'est, je le répète, 80 ou 90% de notre existence qui en général passe à la trappe.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ?
Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment expliquer notre goût pour l'histoire ? C'est l'occasion de s'intéresser à ce qui a déclenché la passion d'histoire chez nos invités, la vulgarisatrice historique et archéologique Charlie Danger, et les historiens Michel Pastoureau, Xavier Mauduit et François Darrocha. Ça, par exemple, moi, ça a suscité un certain intérêt pour une certaine période. aujourd'hui, vous avez reconnu.
Racontez-nous.
Spartacus, de Stanley Kubrick. En tout cas, qui a suscité chez moi mon goût pour la Rome antique.
Voilà, et les combats de gladiateurs.
je m'y attendais, mon cher Xavier Mauduit. Non, mais c'est vrai que par la suite, j'ai lu les ouvrages de Paul Venn, de Paul Grimal ou de Lucien Gerfagnon. C'est vrai que c'est une porte d'entrée. Et puis ensuite, Spartacus.
Hein. Ouais, mais c'est bien de se l'appliquer à soi-même, ce questionnement-là, de se dire, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'histoire ? Et puis, une fois que j'ai saisi ou pas saisi pourquoi j'en suis venu là, qu'est-ce que j'en fais ? Pourquoi j'en ai besoin dans mon quotidien ? Parce qu'il est tout à fait possible de vivre sans rien connaître de l'histoire. De vivre, on se lève, on mange, on boit, on va se coucher, mais alors, on comprend rien à rien.
Charlie Danger, vous nous disiez hors antenne que parfois, vos vidéos sur YouTube étaient prises de... Moi, j'arrive pas à comprendre, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez accompagné de personnes solides, de chercheurs, de recherchistes qui vérifient vos sources, etc.
Oui, prise de haut, alors plutôt par une... plutôt par une certaine frange de la population, mais pas l'intégralité. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup démocratisé. Le fait de consommer aussi de la science, de la culture sur d'autres plateformes comme YouTube en fait partie. Mais c'est vrai que sur notamment les plus vieilles générations ou alors chez certains chercheurs qui restent un petit peu obtus avec il faut une certaine façon de faire, il faut une certaine façon de parler de l'histoire. Par exemple, j'en parle en faisant un peu des blagues, en ayant un petit ton un peu décalé, en étant moi très apprêtée, j'ai un côté un peu fifi. Donc tout ça, ça va être perçu avec un certain regard de... c'est pas assez sérieux pour faire de l'histoire. Et pour moi, c'est une erreur de penser comme ça, puisque au final, ça garde l'histoire dans une sorte d'élitisme où finalement les personnes qui s'y intéressent sont toujours les mêmes. Et moi, j'essaye de rompre ces barrières-là.
En tout cas, Michel Pastoureau ne vous regarde pas de haut, hein.
J'espère, non. Il faut préciser qu'il y a plusieurs sortes d'historiens. Il y a ceux qui sont historiens chercheurs, il y a ceux qui sont historiens enseignants, il y a ceux qui sont passeurs d'histoire, il y a ceux qui sont les trois à la fois, il y a aussi des historiens amateurs qui travaillent pour eux-mêmes ou pour une petite communauté locale. Donc il y a toutes sortes d'historiens et toutes sortes de façons légitimes de faire de l'histoire.
Tiens, que raconte le goût pour l'histoire des Françaises et des Français ? Je citais en début d'émission un sondage Harris Interactive de 2022. Une écrasante majorité de Français s'intéressent à l'histoire. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Xavier Mauduit ?
Déjà, ça dit qu'il y a une culture de l'histoire en France. Et c'est important aussi, hein, c'est lié à ce système scolaire, à ces professeurs. On en a beaucoup parlé. Ça, déjà, ça joue beaucoup. Vous allez n'importe où dans le monde, vous rentrez dans n'importe quel musée, au bout d'un moment, ça va parler français. Parce que c'est comme ça. On est comme ça et on adore l'histoire. Et puis, ça dit aussi que dans cette formation-là, nous savons combien regarder le passé nous permet de comprendre le présent. On est en quête sans cesse de compréhension. Et si on enlève dans les actualités, et on pourrait toutes les citer aujourd'hui, une à une, le passé, sans blague, c'est beaucoup plus fade. Et que ce soit en Ukraine, et que ce soit partout dans le monde, sans l'histoire, on ne comprend rien, surtout quand l'histoire est utilisée sans cesse dans ces actualités-là. Il suffit d'écouter les discours des différents dirigeants politiques.
Oui, l'histoire qui peut être instrumentalisée au service d'une idéologie. Certains historiens ou apprentis historiens sont critiqués pour, comment dire, tordre l'histoire d'une certaine façon.
C'est très compliqué l'histoire. Et Michel Pastoureau, vous l'avez dit vraiment avec beaucoup de justesse. C'est quoi être historien ? C'est difficile. Être historien, c'est faire de l'histoire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Et on voit très bien dans des archives départementales, certains généalogistes qui dépouillent les archives notariales. C'est une démarche d'historien ou d'historienne. Et quand le travail est bien fait, quand on applique bien la méthode, la critique, la hiérarchisation des documents, la confrontation des sources, quelque part, on fait œuvre d'historien.
Alors, évidemment, l'histoire repose sur une démarche, une méthode scientifique. Mais Michel Pastoureau, et on terminera avec vous, vous revendiquez cette subjectivité de l'historien. Pour vous, le souci d'objectivité est certes respectable, mais utopique.
Oui.
Et vous dites d'ailleurs que dans vos recherches, vous livrez un passé partiel et partial, provisoire, orienté et recomposé.
Oui, j'en suis absolument persuadé. Déjà, le souci d'objectivité, c'est déjà une attitude idéologique. Donc on est piégé dès le départ. Hein. Donc autant avouer qu'on est partial ou qu'on prend tel ou tel point de vue et on livre à nos successeurs, parce que nous faisons partie d'une chaîne ininterrompue, j'espère, des informations qu'ils vont compléter, renverser, nuancer, etc. Donc je crois que il n'y a pas de vérité historique. Il y a des vérités historiques, provisoires, toujours provisoires. Nos savoirs actuels, nos connaissances actuelles, dans tous les domaines, y compris les sciences dures, ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Ce ne sont pas des vérités. Et nos successeurs ricaneront de ce que nous racontons en 2025. Il ne peut pas en être autrement. Donc, ne faisons pas pareil avec le passé, ne rions pas de tel ou tel auteur de l'Antiquité ou du Moyen-Âge qui, sur tel ou tel problème touchant les animaux ou les végétaux, n'a pas les mêmes connaissances que les nôtres.
Et d'ailleurs, vous le dites, un document ou un témoignage ne dit jamais tout, il le dit toujours à sa façon.
Oui, et c'est même vrai d'un acte notarié. Le notaire qui fait un inventaire, il emploie un certain mot et pas d'autres, il fait l'inventaire dans un certain ordre, il laisse des choses de côté, il se trompe volontairement ou non sur les quantités, les proportions, les prix. C'est toujours un scénario, un acte notarié. Même aujourd'hui, hein, pensez, un acte de vente, les dessous de table ne sont pas mentionnés. Donc voilà, ça ne dit pas tout.
Pour terminer, qu'avez-vous envie de dire à un lycéen qui serait attiré par l'histoire et le métier d'historien? François Darrocha.
Bienvenue.
Michel Pastoureau.
Merci.
Merci, c'est très bien. Et Parcoursup, attention, les études d'histoire ouvrent dans beaucoup de domaines parce que tout le monde recherche des gens compétents, capables de rédiger des textes, de critiquer les documents. Donc, faire de l'histoire, c'est pas simplement être enseignant, ce qui est un métier absolument admirable.
Et Charlie Danger, vous avez peut-être suscité des vocations d'historien grâce à vos vidéos chez les lycéens.
Et on peut aussi faire de l'histoire de façon différente. Et comme là, moi aujourd'hui, je suis réalisatrice et pas du tout historienne.
Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, François Darrocha. Merci. Carnero d'être venu. Merci Charlie Danger. Je renvoie à votre chaîne YouTube Les Revues du Monde. Merci Xavier Meduit. Votre livre C'est fou d'histoire, richement illustré, une coédition Armand Collin, France Culture, avec des récits d'Ali Zeniter, Gaël Faye, Macha Merrill ou encore Delphine Horvilleur.
Et ben, l'idée c'était ça, c'était de leur demander, et vous, comment en êtes-vous venu à l'histoire?
Et merci Michel Pastoureau. Votre livre d'entretien avec Laurent Lemire, L'imaginaire est une réalité, est publié au Seuil.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.